À Voigny. Cette semaine, Maïlys Bessery rencontre Catherine Clément. Ce soir, communisme et journalisme. Catherine Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, nous avons parlé de votre départ de l'université, qui va vous mener au journalisme, en tout cas pour un temps, et à l'écriture. Revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien, pour raconter le début de votre engagement politique au sein du Parti communiste.
Juin 68.
En juin 1968.
C'est important de dire juin, parce qu'il y a eu mai, le début de mai était formidable. Le mois de juin, c'est là où tout se décompose. Et les derniers à être restés dans l'Assemblée générale de philosophie, à la Sorbonne, c'était dans un amphi de la Sorbonne, pas à Jussieu, pas à Sancier. Dans la Sorbonne même, étaient des étudiants de philo, les miens. Et les Mao commençaient à avoir une certaine emprise. Et donc, la science et la philosophie sont devenues bourgeoises. Et les Maoïstes brûlaient les livres, des sciences bourgeoises. Je me suis fait d'ailleurs exclure de cette Assemblée générale. Comme 15 ans plus tard, je me ferai exclure du Parti communiste. En tout cas, je me suis rué sur le Parti communiste. Après quand même une période d'un mois que je me suis imposé de silence absolu sur ce sujet. Mais il n'y avait pas de Parti socialiste. Pas encore. La SFIO avait disparu on ne sait où. Il y avait les gauchistes, les maoïstes, etc. Je n'en voulais à aucun prix, ils brûlaient les livres. Pas les trotskistes, il faut être juste. Hein. Mais les maoïstes, oui. Et le seul parti qui défendait les livres, c'était le Parti communiste. Il faut se remémorer ça.
Donc, les livres, Catherine Clément, c'est ces livres brûlés qui vous ont mené à vous engager au Parti communiste. C'est cette raison-là ?
Oui. Oui, c'est cette seule raison. Quand on brûle les livres, je me déporte à gauche, à l'extrême gauche. À l'extrême gauche de l'époque, c'était le Parti communiste. Hein. Quand même dans un parti républicain, hein. Pas jamais, j'ai jamais été gauchiste de ma vie, jamais. Mais je voulais défendre la culture et les livres. On a été très nombreux à faire ça, extrêmement nombreux.
Alors quand vous dites on, c'est qui on ? Les gens de l'université, les intellectuels de l'époque ?
Les intellectuels de l'époque, ils étaient presque tous universitaires. Hein. Donc il y a eu un flot d'universitaires qui avaient bien vu qu'il y avait une menace sur la culture, parce que le maoïsme réellement attaquait le fond de la culture.
Mais il y a eu beaucoup d'intellectuels maoïstes aussi.
Moins que de ceux qui ont rejoint le parti. En comptabilité, vous en trouverez moins. Alors les maoïstes ont fait parler d'eux. Ils sont surtout devenus des intellectuels brillants après avoir abandonné le maoïsme. Mes plus vieux amis s'appellent Alain Badiou et Jean-Claude Milner. Ils ne m'auraient pas adressé la parole pendant des années, hein, tellement ils étaient mao. Mais ça n'a plus aucune importance parce que ça n'est plus opportun. Je précise quand même qu'Alain Badiou est resté maoïste. Bon, et que nous sommes très amis. Mais à l'époque, c'était dangereux pour la culture et dangereux pour les vies même. C'était terrible. Et donc le Parti communiste avait cette qualité extrême d'avoir une politique culturelle. C'est d'ailleurs que ça reste le seul parti français qui ait, à l'heure actuelle, une politique culturelle. Il n'y en a pas d'autre. Hein.
Catherine Clément, votre entrée au Parti communiste, ça va générer des rencontres et des voyages, notamment en Pologne.
Alors c'était une mission en Pologne, ce n'était pas un voyage, c'était une mission très singulière, puisque sous les illusions, sous l'aspect d'une délégation venue pour faire un bilan de la politique culturelle polonaise, pour la revue La Nouvelle Critique, qui était la revue des intellectuels communistes, le véritable but était de trouver si oui ou non, comme le disait le PUP, c'est-à-dire le Parti communiste polonais, ils avaient des syndicalistes, c'est vrai, en face du syndicalisme chrétien qui était en train de naître à Gdansk. Donc on était chargé de débusquer si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Y avait-il des syndicalistes communistes en Pologne ? C'était ça notre vraie mission. Alors on a fait des tas de trucs pour enrober ça. Dans les tas de trucs, il y a eu ma première visite à Auschwitz. Et puis, on a fini par débusquer la vérité, c'est-à-dire qu'on nous a sorti des figurants. C'est quand même marrant de voir arriver des figurants dans un hangar où on vous présente comme des vrais syndicalistes. Vous le savez tout de suite que c'est faux, immédiatement. On a débusqué ça et on a fait un rapport au bureau politique. Mais c'était une mission très sérieuse.
Donc c'était un travail d'enquête ?
Eh oui, c'est-à-dire tous les jours on demandait, et on les voit quand, les syndiqués ? On doit les rencontrer quand, les syndicalistes ? Alors on nous montrait des sauf-causes, on nous montrait des colcauses, des combinates, des trucs industriels, on nous saoulait à la vodka, enfin toutes sortes de machins. Et puis le dernier jour, on a dit, on reste là, on ne sort pas, tant qu'on n'a pas vu les syndicalistes. Et là, ils nous ont amené des figurants.
Quel rapport vous entreteniez déjà auparavant avec la pensée de Marx ?
Marx, c'est pas tellement ma tasse de thé, je préfère Engels personnellement. Celle d'Engels, m'y suis intéressée tout de suite à cause de l'origine de l'État et de la propriété privée. Marx, m'y suis intéressée beaucoup plus tard. Le mouvement Althusser m'a, je vais dire la vérité, ça me cassait les pieds, mais vraiment.
Alors Althusser, pour préciser, il était professeur au moment où vous, vous étiez à Normale Sup.
Oui, mais il était professeur pour les garçons. Elisabeth Roudinesco n'a rejoint que plus tard, et Blandine Kriegel, qui a été une de mes étudiantes, beaucoup plus tard aussi. Et moi, j'ai connu un Althusser qui n'existait que pour les garçons, et que je n'aimais pas.
Marx, vous l'aviez étudié.
Alors attendez, Marx, je l'ai retrouvé.
En tant que philosophe.
Je vais quand même le dire. Oui, je l'ai étudié, bien sûr, quand même. Écoutez, oui.
Avant l'agrégation, je veux dire.
Non, pas avant l'agrégation, plutôt après. Marx n'était pas au programme, mais je l'ai retrouvé dans un de mes romans, et ça, c'était formidable. Est-ce que vous saviez que Marx et Engels ont été correspondants pour le New York Times en 1856 et 1857 pour couvrir la guerre en Inde, aux Indes, devrais-je dire? Le saviez-vous? Ils ont couvert la révolte des Sipayes. Naturellement, ils n'ont jamais mis les pieds en Inde. Jamais, hein. Mais ils avaient des cartes de géographie, ils ont tout reconstitué. Et les articles publiés par Marx et Engels dans le New York Times sur cette guerre de l'époque sont les meilleurs qu'on puisse trouver. Et ça, chapeau. Vraiment, ils ont fait un travail admirable.
Décidément, non, je ne le savais pas. Décidément, tout ramène à l'Inde, Catherine Clément.
Oui, tout y... oui, enfin, c'est quand même une guerre lointaine. C'est une guerre coloniale. C'est une guerre coloniale. Hein. C'est à ce moment-là que l'Empire britannique s'est constitué dans toute sa dureté. Avant, c'est moins le cas.
Mais c'est en tant qu'observateur de l'Empire britannique qu'ils écrivent, évidemment, là-dessus.
Non, ils vivaient à Londres, ils étaient fauchés.
Oui.
Ils ont dû trouver du travail, c'était ça. Ils se sont dit, bon, on va prendre des cartes de l'Inde. Et puis voilà, ils ont écrit. Et comme ils étaient extrêmement géniaux, ils ont tout de suite trouvé où ça n'allait pas. Et c'était très simple, ça n'allait pas du côté des castes.
On reviendra à l'Inde plus tard, à cette période-là où vous êtes communiste. Vous êtes aussi journaliste, vous devenez journaliste, alors pigiste au Monde, vous l'avez déjà évoqué. Et puis,
avec un travail très précis. Premièrement, je crois que c'était Jacques Fauvet, pour m'éprouver, il m'a demandé d'avoir une page entière du Monde sur le 100 millième ou 1 millionième, je ne sais plus, mettons le 100 millième, spectateur d'Emmanuel, le film érotique. Hein, histoire de voir si cette normalienne couronnée était capable de prendre quelque chose sur un film érotique. J'ai trouvé ça tellement ridicule, je l'ai évidemment fait. Et après, on m'a confié l'interview des Cyril Hanouna de l'époque. Donc je me suis tapé Guy Lux, je me suis tapé... enfin tout ça.
Zitrone.
Zitrone, ça fait très mal parce que...
Vous avez consacré un chapitre à
Léon Zitrone. Mais je n'ai jamais fait mon âge, donc j'arrivais avec mes 30 ans, j'en paraissais 15. Hein, donc j'étais la petite pigiste qui démarre. Ils s'y sont tous laissés prendre, mais alors. Mais c'est absolument génial ce truc. Et il a fallu que dans le bureau du patron de RTL, je ne sais plus qui c'était à l'époque, mais Zitrone, le patron de RTL, je me souviens de ce qu'il m'a dit. Il faut que vous consoliez le vieux clown. C'est quand même une drôle de formule.
Qui était attristé parce que vous aviez écrit sur lui.
Oui, je m'étais un peu payé sa tête.
Catherine Clément, au Matin de Paris, alors là c'est la rencontre avec Claude Perdriel qui vous permet d'y rentrer, et lui il voulait des communistes dans sa rédaction.
Oui, et on était deux.
Donc les deux affaires sont un peu liées.
Les deux affaires sont un peu liées, et on était deux, juste deux, hein, dans une rédaction de 170, peut-être pas 170, mais dans l'étage où on travaillait il y avait 170 places. Donc l'ensemble de la rédaction, tout compris avec les secrétaires de rédaction, l'ensemble faisait 170 personnes. Et oui, on n'était que deux.
Alors comment s'est faite cette affaire, vous ?
Sauf les ouvriers du livre, évidemment. Hein.
Qui, eux, étaient communistes.
Ah bah bien sûr.
Évidemment. Vous allez vous retrouver chef de la rubrique culture pour un moment. Alors racontez-nous cette entrée dans le journalisme. Vous avez quitté l'université.
Non, c'est pas tout à fait ça. Le chef de rubrique s'en va en traitant Perdriel de nazi. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai jamais compris cette histoire. Mais bref, il était en colère et il est parti. Et Perdriel m'a demandé de faire un remplacement pour 15 jours. C'était les vacances de Pâques, donc j'ai accepté. Ça a très bien marché, après je me suis mise en congé. Voilà. Et mon entrée comme chef de rubrique, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que Prévert est mort, Jacques Prévert est mort. Son enterrement a eu lieu au Havre. J'ai envoyé un de mes grands reporters culturels, parce que c'était très chic, j'avais des grands reporters culturels, suivre l'enterrement au Havre. Il m'a envoyé un papier bouleversant que j'ai publié en étant bouleversé. Et puis quelqu'un m'a dit, tu devrais aller garder sa fiche téléphonique. Et il avait dicté ça de Nice. Ça, c'était mon premier jour. Le deuxième jour, je vais chez Perdriel, je bondis dans le bureau de Perdriel, je lui dis, je ne veux pas de ce type-là. Et il me dit, je vous le retire, ça va, mais je le garde au journal parce qu'il écrit bien. Deuxième leçon. Voilà. Donc le journalisme, c'est dur.
Le journalisme,
ça a des rapports avec la vérité qui sont quand même extrêmement lointains.
Et pourtant, vous allez l'être pendant 7 ans, à peu près, parce journaliste, que
pour la
Catherine
culture.
Clément.
Oui, à part quand on trafique un enterrement entre Le Havre et Nice, où là, c'est vraiment un mensonge éhonté, la culture, c'est quand même moins vulnérable au mensonge.
Qu'est-ce que vous découvrez de cet univers-là, intellectuellement, par exemple? Ça vous permet de faire un certain nombre d'articles.
La moitié est droguée, l'autre picole.
Là, vous parlez des journalistes.
Oui, mais c'est quand même très important. À l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant. Et Père Dayal m'a, entre autres, quand j'étais un peu plus âgé que la moyenne, chargé de ramasser les grands drogués au café et de les mettre dans des taxis. Mais vraiment, c'était ça. Ça, c'est ce qui m'a frappé le plus. À l'université, ça n'existait pas, ça. Peut-être chez les étudiants, mais pas chez les profs. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans un monde où, si on n'était ni drogué ni camé, on n'était pas normal.
Un univers très masculin ?
Non, non, paritaire. Vraiment paritaire.
Pas le monde, en tout cas, à cette époque.
Non, pas le monde, mais je parle du Matin de Paris. Au Matin de Paris, c'était quand même paritaire. Mais ça n'empêchait pas la drogue et l'alcool. Hein.
Qu'est-ce que vous découvrez de ce métier, justement, à la tête d'une rubrique, avec des reporters, à aussi organiser la pensée en fonction de la taille d'un journal Vous allez, vous, y apporter de nouvelles figures?
Je découvre que plus on enlève de signes dans la peau d'un texte, mieux c'est. C'est ça la grande découverte que me fait faire le journaliste. C'est-à-dire que j'adore, moi, réduire les textes. J'en fais toujours des très longs pour pouvoir les réduire, parce que c'est un exercice absolument magnifique. C'est comme ça qu'on atteint, je dirais pas l'os, parce qu'on n'atteint pas l'os de la pensée tout de suite, mais quand même, réduire les textes, c'est un exercice magnifique. Ça a été ma grande découverte intellectuelle, ça.
Pour reparler de l'écriture, c'est une époque où vous allez écrire, pas simplement dans la presse, mais où vous-même, vous allez faire un essai en 74 sur Lévi-Strauss, qui est une commande.
C'est 70, je crois. Donc, quelqu'un que je connais un peu, qui est un universitaire très digne, dans une collection très digne, me commande le premier livre sur Lévi-Strauss qui ait jamais été fait. C'était avant que Lévi-Strauss démarre la publication des mythologiques. Vous voyez ce que c'est, les mythologiques? C'est 4 gros volumes qui racontent la quasi-totalité des mythes des Amérindiens du Sud et des Amérindiens jusqu'à l'Alaska, jusqu'au cercle polaire. C'est magnifique, c'est difficile, c'est un univers absolument formidable, un univers animalier avec des plumes, enfin énormément d'érotisme scatologique et d'érotisme extrêmement dru, comme sont les mythes d'ailleurs, hein, comme sont toujours les mythes.
Arrêtez-vous sur les plumes, vous dites les plumes, il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous arrêtez sur les plumes, c'est très important.
Je m'arrête sur les plumes parce que l'art plumaire, parce que quand j'ai découvert la plumaire d'Amérique du Sud plus tard, d'ailleurs, il y en a plein à la maison. Si vous retournez, vous avez de l'art plumaire partout. Hein. Et ça, ce sont des éventails Bororo que nous avons achetés, mon compagnon et moi, à des Bororo qui on était au Mato Grosso, sur les traces de Lévi-Strauss. On a refait le périple de Lévi-Strauss. Et on a vu arriver, en jean et en Nike, hein, des Bororo. Ils sont rappelés, les Bororo. On a tout de suite reconnu le physique que Lévi-Strauss décrivait très bien. Ils avaient un carton dans le bras. Le carton était plein d'art plumaire. Ils allaient les vendre à la funaille. Et on a dit, on vous donne le double. Et on prend. Et donc, on a pris le carton. Donc, ça a été un moment très important, c'est sûr. Et on n'imagine pas la beauté des plumes. Plus personne ne fait ça. C'est magnifique. Quand on se met à genoux devant ces peintures, c'est un autre paysage qui apparaît. On est en bas, on regarde comme ça en contre-plongée, et c'est un autre paysage. On se redresse, c'est différent. Uniquement à cause des plumes.
Catherine Clément, au moment où vous écrivez Lévi-Strauss ou La structure et le malheur, c'est une bascule dans l'écriture. Alors d'abord, par l'intermédiaire de l'essai.
Mais oui, mais c'est pas une bascule dans l'écriture parce que moi, j'ai jamais. Vous mettez une majuscule à l'écriture. Et moi, pas. Moi, j'en mets pas du tout. L'écriture, j'en ai jamais fait. J'ai pas connu la page blanche. Je pense que c'est un truc plutôt masculin que féminin. Je le pense vraiment. J'ai pas d'angoisse spéciale. Le matériau avec lequel j'écris ne compte pas. J'ai pu écrire à la main, j'ai écrit avec la machine à écrire mécanique, puis électrique, puis électronique, puis ordinateur. Rien de tout ça n'a d'importance pour moi. J'écris, point. Mais j'écris comme... je sais pas comment je veux dire. J'ai failli dire des grossièretés.
Quand je dis bascule, je parle plutôt du format et du fait de publier indépendamment de la presse ou de l'université.
Ah mais ça, je m'en fous éperdument. Je m'en fous à ce moment-là éperdument, vraiment. Je ne pense pas à ça. Je pense à écrire un livre sur mon maître chéri. Et il n'a pas encore... Je ne savais pas qu'il allait écrire la mythologique. Il faut que j'arrive à le caler au moment où il est. Il m'a engueulé, bien sûr. Hein.
Il n'est pas si content que ça, lui.
Ah non, mais ça, de toute façon, je l'ai connu de 1962 à l'année d'avant sa mort. Il m'a écrit sa dernière lettre d'une main tremblée. Il n'a pas cessé de m'engueuler. C'était une amitié vraiment vigoureuse. Hein.
Sauf pour les romans, Catherine Clément.
Oui.
Vous engueulez pour les essais.
Sauf un. Quand j'ai publié Pour l'amour de l'Inde, je ne sais pas si vous l'avez lu, Triste Tropique de Lévi-Strauss, il écrit des horreurs sur l'Inde et qui sont des imbécilités. Mais vraiment, je l'avais souvent dit. Hein. Chaque fois que je revenais de l'Inde à Paris, il venait me voir, il voulait surtout pas que je me fatigue, donc il avait quand même 90 ans à l'époque, il venait chez moi me voir. Et là, un jour, il venait lire Pour l'amour de l'Inde et il m'a écrit, et cette lettre quand même encore, je n'avais rien compris à ce que j'ai vu. Il a été en août 1950 au Pakistan, en Inde et au Bangladesh. La partition des Indes a fait 3 millions de victimes dans cette zone-là, et c'était en 1947, donc 47, 48, 49, 50, 4 ans avant. Ce qu'il a pris pour une ville, partout, c'était des camps de réfugiés. Et il se trouve qu'une partie de l'action de mon roman se situait dans des camps de réfugiés, à la fin, puisque le roman débouche sur la partition. Forcément, je suis dans des camps de réfugiés partout. Des camps de réfugiés beaucoup moins sophistiqués que maintenant.
Il s'agit de quel roman ?
Il s'agit de Pour l'amour de l'Inde, qui raconte l'histoire d'amour véritable qui a lié Lady Edwina Mountbatten, la dernière vice-reine des Indes, à Jawaharlal Nehru, premier ministre de l'Inde, libre et indépendante. Donc voilà, c'était... Et c'est le seul moment où on m'a dit, là vraiment, vous m'avez appris quelque chose. J'ai compris pourquoi je n'avais pas compris. Voilà.
Alors, votre amitié avec Lévi-Strauss, elle va aussi justement passer par les commentaires sur les livres. Et vous alternez l'écriture d'essais et l'écriture de romans. Cette alternance-là, elle s'est faite à un moment donné, Catherine Clément, entre les gens qui écrivaient des essais et des romans, puis plus du tout. Vous êtes retrouvée dans une situation où c'est pas si courant que ça d'alterner l'écriture d'essais et l'écriture de fiction.
Je crois qu'on est trois. Je nous connais trois. Je connais Julia Kristeva, Hélène Sixou et moi. Il y en a sûrement d'autres. Peut-être Daniel Salnab aussi, mais il y a très peu.
Il y a Sophie Divry, il y a d'autres personnalités. Oui, il y a Sophie Divry dans les nouvelles générations.
Ah, mais dans les nouvelles générations. Mais moi, je suis une très vieille dame, attendez. De ma génération, je nous compte trois ou quatre, oui. Je suis sûre que chez les jeunes gens, ça revient. Ce clivage, il tenait surtout à la nature et au pouvoir des critiques littéraires. Comme vous l'avez compris, le journalisme, j'ai vu des choses horribles. Et les critiques littéraires faisaient des choses horribles, vraiment. Et donc, c'est eux qui ont imposé ce clivage, qui en effet n'a pas lieu d'être.
Quelle liberté personnelle vous avez trouvée justement entre le moment où vous avez quitté l'université, une institution, et le moment où justement vous arrivez dans le journalisme qui a lui aussi ses codes, et puis le monde aussi de l'édition, on en a d'autres. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvée plus libre, Catherine Clément ?
Intellectuellement, oui, d'autant que le champ était beaucoup plus large. Il fallait quand même que j'édite des articles sur des expositions de peinture, sur du théâtre. J'avais pas le cinéma. Sur du théâtre, la peinture, de la danse, la musique, donc toutes choses qui n'étaient pas de la matière philosophique. Donc ça m'a énormément cultivé, mais énormément, ça j'ai appris énormément de choses. Et j'aime plutôt apprendre, j'aime bien ça. Et la liberté, je vous ai dit la liberté intellectuelle, comment réduire un texte et le rendre meilleur en le réduisant, on est toujours meilleur quand on réduit. Sauf les têtes pour les Givaro. Là, ils ont arrêté de réduire les têtes. Il faut quand même le préciser. L'édition, c'est autre chose. L'édition est un monde marchand. Commercial, mais je dirais plutôt marchand. Donc à l'époque, je crois que c'est encore vrai, mais sauf que maintenant ça n'a plus d'importance, parce que l'édition est écrabouillée par le développement technologique, mais à l'époque, les journaux vivaient des publicités par les livres. C'était une grosse partie de la publicité d'un journal. Donc les critiques littéraires, c'était très important. La critique littéraire pour les livres, c'était Françoise Zénakis. C'était elle qui tenait les livres, romans. Mais enfin bon, on ne sait quelquefois pas le partage. Et moi, je m'occupais des essais. Et moi et elle, on avait des rapports avec les patrons des maisons d'édition. Et ça, c'était un marchandage quand même. Malgré tout, ça reste vrai. C'est un monde marchand. L'édition est un monde marchand. Le commerce des livres est un vrai commerce.
Alors, on a parlé de votre formation à Normalsup, il y a eu aussi tout cet aspect désapprentissage, où finalement, le passage au roman, à un autre type d'écriture, c'est aussi une manière de contourner cette pensée, vous, que vous aviez apprise, plus théorique.
Ça, c'est vous qui le dites, je n'en sais rien. Moi, il y a une chose que je peux vous dire sur l'écriture, quand j'écris, je ne pense pas à ce que j'écris, et je bascule dans autre chose. Donc, c'est pas moi qui peux l'interpréter. Et d'ailleurs, je ne veux surtout pas interpréter moi-même. Surtout pas. Je sais que si je soulève le couvercle de ce chaudron-là, il n'y aura plus rien.
À cette époque-là, vous êtes donc communiste jusqu'en 1981. Et puis, petit à petit...
Jusqu'en février 1981, c'est important. C'est au moment où deux maires communistes font détruire des foyers de Maliens à la Pelleteuse.
Alors, il faut expliquer, quand vous êtes rentré au Parti communiste, vous aviez...
Je m'étais fixé comme limite, un acte de racisme, ça peut être une connerie, deux, ça devient une ligne et je m'en vais. Voilà. Donc, le deuxième maire qui fait ça, je fais ce qu'il faut pour me faire exclure. Contre l'avis de Perdriel, qui voyait partir, j'étais désormais la seule communiste, et je m'en allais du Parti communiste, il était désespéré.
Alors, Catherine, comment ça se passait, justement, au Parti communiste? On n'excluait plus tellement,
à l'époque,
en 1981.
À l'époque, on disait... X ou Y s'est mis en dehors du parti.
Ça, c'était la ligne Marchais, Georges Marchais.
C'était la ligne Marchais, absolument. Donc moi, j'ai été voir les voyers du livre, qui était ma cellule de base, et je leur ai dit, moi, je veux que vous m'excluiez. Il y a des statuts, c'est comme une association de pêcheurs à la ligne. On applique les statuts, on fait un vote, et je veux être exclu par un vote démocratique.
Pourquoi?
Parce qu'on respecte les statuts quand on est un parti. Voilà, c'est le modèle républicain, ça. Je voulais. Et c'était tellement exceptionnel, en effet, Marchais a fait une dépêche à l'AFP. Je crois que je suis la seule à avoir réussi à me faire exclure.
Est-ce que c'était une critique, justement, de ce procédé qui consistait...
Non, c'était l'application. Quand il y a des statuts, on les applique. Point. N'allez pas chercher plus loin. Pour le reste, la décision de quitter le parti, c'était, il y a eu deux actes de racistes, les copains vous avez débloqués, je m'en vais.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Catherine Clément?
En fait, pas grand-chose, parce que je n'ai jamais critiqué le Parti communiste ensuite. Je ne suis jamais devenue anticommuniste. Et ça, ils le savaient. Jamais je n'ai fait ça. Jamais. Donc ça n'a pas changé énormément de choses.
À cette époque charnière, l'opposition s'est restructurée en France depuis un moment. On approche de l'élection présidentielle. Et vous, alors que vous étiez journaliste au Matin de Paris, vous faites la rencontre de François Mitterrand.
Ah, ça, c'est pas moi, c'est pas ma faute.
C'est lui qui vous a demandé.
François Mitterrand qui demande à Perdriel que ce soit moi. Un, parce que j'étais communiste, et deux, parce que j'étais femme. Vous voyez, il ne savait pas qui j'étais, en dehors de ça. Et donc, voilà, je prends mon photographe préféré, chéri, qui m'emmène sur sa moto. Nous arrivons au siège du Parti Socialiste, qui à l'époque est du côté de Pigalle. Et le photographe commence à prendre des photos. Et je vois les yeux de Mitterrand qui... Je ne sais pas comment vous... Je fais le geste, là, devant le micro, comme des ailes de papillon qui battent très très fort. Je vois les yeux de Mitterrand qui papillotent comme ça. Et j'arrête mon photographe en disant « Tu ne fais plus de photos ». Et ça a scellé une amitié, parce que j'avais compris qu'il détestait ça. Les photographies le mettaient dans des états épouvantables. Alors c'était des photographies avec flash, très rudimentaires à l'époque quand même. Et c'était un excellent photographe pourtant. Mais d'avoir demandé au photographe d'arrêter, je lui ai dit de partir. Voilà, après ça, il m'a donné des rendez-vous souvent, pour des raisons que j'ai fini par élucider, parce que c'était toujours à la sortie d'un hôpital, quand il avait un ami malade qui se mourait. Et c'était toujours là qu'il me donnait ses rendez-vous.
Comme s'il y avait un lien entre
vous,
Mitterrand et la mort.
Je lui ai dit, je suis là pour la... Vous me donnez des rendez-vous pour la mort. Il y a un rendez-vous qui a échappé à ça, qui était pendant la campagne électorale. C'est un truc absolument fou, ce truc. C'était dans un meeting qui se passait là où on enregistrait les émissions de l'après-midi. Maintenant, c'est au studio Gabriel, mais avant, c'était quelque part dans un studio du côté de l'Arc de Triomphe. Un truc qui a brûlé, l'Empire, je crois que ça s'appelait comme ça. Voilà. Il y avait un meeting de l'International Socialiste, où il était avec son homologue allemand. Et tous les ponts de l'International Socialiste, tout le monde savait qu'il allait gagner. J'arrive là et je m'endors. Je m'endors, vraiment. Et je suis réveillé par Mitterrand, et je ne sais plus qui c'était, Schmitt, je crois que c'était Helmut Schmitt, et des photographes, naturellement, qui commencent à bombarder. Mitterrand me dit « Allez, on part en voiture ». Ma voiture, elle était dans un état de... Enfin, les voitures de journalistes, il y a plein de papiers. Bon, très bien, je dégage comme je peux une place. Et il y avait trois journalistes sur le capot, en train de mitrailler à travers le pare-brise. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il me dit, rien, vous démarrez, vite. Évidemment, ils ont dégagé. C'est un truc que j'ai jamais oublié. Et après, il m'a fait balader dans Paris en prenant grand soin de me faire passer par devant l'Élysée. Ce que j'ai trouvé très rigolo.
Avant d'être président.
Oui. C'était à 8 jours, On était à 8 jours du résultat du deuxième tour.
Quelles étaient vos conversations, Catherine Clément?
Sur la mort.
Sur la mort, mais plus précisément.
Jusqu'à la fin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était la fête de la musique 1995. Donc il avait beaucoup rapetissé. Il avait plus que des petits duvets sur le caillou, sur la tête. Et j'étais en train de parler avec Julien Clerc, qui était le musicien de l'invité. Et il avait quand même une voix assez forte. J'ai entendu Mitterrand qui me disait « Mais vous savez que je vais mourir, moi. Vous allez venir me parler à moi ?» C'était ça, ce ton-là. Il n'avait pas peur de la mort. C'était quand même, voilà. À un autre moment, à l'Élysée, un jour, il y avait une très très vieille dame, il décorait une vieille dame qui était... C'était, il me décorait moi, puis il décorait d'à côté une vieille dame avec des bikinis. Et j'ai dit, mais où est-ce qu'elle va, cette dame? Mais où je vais? Vous savez bien que je serai mort dans 3 ans. C'était fou, hein. Alors avec une espèce de colère, comme j'essaye de le montrer, mais sans aucune crainte. C'était un vrai problème, comment est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire presque politique, la façon dont il en parlait. C'était antique. Comment on meurt quand on est... Voilà. Et donc je persiste à penser que c'est un problème plutôt masculin que féminin.
La peur de la mort?
Oui. Oui, je crois.
Pourquoi?
Écoutez, c'est très naïf ce que je vais vous dire. C'est très naïf. Donc pardonnez-moi cette esquisse d'esquisse. Hein. Mais il me semble que quand on a porté des enfants, on a moins peur de la mort. C'est un peu idiot ce que je vous dis, mais voilà. C'est ce que je pense. C'est ce que je crois. C'est ce que j'ai observé, en tout cas.
L'amitié avec François Mitterrand, comme vous venez de le décrire, elle a persisté jusqu'au bout, alors même que...
Jusqu'à ce que je le vois sur son lit de mort, oui.
Alors même que vous n'aviez pas les mêmes goûts, notamment intellectuels, qu'il y avait des grandes différences entre vous, dans vos lectures notamment. Vous disiez qu'il aimait la littérature de Marquis.
Mais écoutez, il avait lu un de mes livres qu'il adorait, donc ça me suffisait largement. Hein. Il avait les goûts d'un homme de son âge, de son temps, de son époque, qui avait vécu la guerre et l'avant-guerre, et il adorait la littérature macho, élégante, perverse, de ce qu'on appelait plus tard, hein, ce qu'on a appelé plus tard les hussards. Hein. Moi, je déteste ça viscéralement. Hein. C'est les beaux mecs, quoi. Hein. Les beaux mecs qui friment dans leurs beaux habits le soir à Saint-Germain.
Qu'est-ce que vous gardez, vous?
Et puis après, ça donne Foucault, déguisé en dame, avec un sac, à Saint-Germain-des-Prés, en train de faire le tapin. C'est pareil.
Qu'est-ce que vous gardez, justement, de cette amitié, Catherine Clément?
Le souvenir des amis, vous savez, ça reste pareil, oui. Le souvenir des amis. Je ne peux pas vous dire autre chose que son rapport à la mort, quand même.
Comme une relation un peu mystique.
Oh, c'est beaucoup, ça serait trop dire, et ça sonnerait prétentieux. Mais non, j'étais pas la seule hein, sur ce terrain. Mais il avait des amies femmes, avec chacune, on avait constaté ça entre femmes, chacune avait son secteur. Hein. Il y avait celle qui était ministre et qui avait une fille exactement de l'âge de la sienne. Il y avait celle, Marie de Henzel, qui s'occupait de l'apprentissage de la mort. Il y avait moi, je ne sais pas pourquoi, qui pouvait lui parler de la mort aussi. Et il y avait comme ça toute une kyrielle qui n'était pas du tout les maîtresses. Qui étaient les femmes avec qui ils pouvaient parler de tel ou tel sujet.
Merci Catherine Clément, on se retrouve demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Besserie avec Catherine Clément. À voix nue, réalisation Nathalie Salle. Prise de son, Yves Lehors, attaché de production, Daphné Abgral, coordination, Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.